un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, pépé, pépé. Par les temps qui courent.
Ça y est,
je suis vêtement Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Et vous, si vous deviez mettre en espace, en son et en lumière ce qui se trame dans votre tête, si vous deviez rendre tangible et regardable le trajet de vos pensées, les répartitions de vos images mentales, la géographie de vos affects, qui verrait-on au final ? Qui entendrait-on ? Que verrions-nous projeter de vos inquiétudes et des chaos qui vous traversent ? Dans votre dernière création de théâtre musical, Georges Apergis, Thinking Things, cela prend la forme de cases plus ou moins allumées, habitées, animées. Le théâtre se joue des plans et des arrière-plans, des corps plus ou moins humains, pour explorer cette fois-ci un ou des rapports possibles avec les robots dans nos vies, dans la musique et pourquoi pas dans l'au-delà. Bonsoir,
bonsoir
Georges
Apergis. Bonsoir.
Thinking Things a été présenté dans le cadre du festival Manifest, c'était au Centre Pompidou à Paris. Soyez les bienvenus. On va ne cesser de dire que vous travaillez avec plein de personnes, et parfois depuis longtemps, parfois de manière un peu plus brève. Et on va entendre pour commencer la voix d'une qui vous accompagne, Émilie Morin.
Souvent quand Georges fait du théâtre musical, il travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il a... on va dire une idée moteur pour le spectacle. Là, ici, c'était l'idée de la surveillance. Donc, il rassemble des textes qui font penser à ça. Il écrit de la musique. Et on arrive aux premières répétitions. Et on a ces réservoirs, cette sorte de réservoir. Luna Park, au départ, c'est ça, c'est-à-dire 5 cahiers dans lesquels ils sont réunis. J'ai réuni pour tout le monde chaque texte. Et puis les partitions de chaque instrumentiste à la fin. Il n'y a pas de chemin musical préétabli. Là même, on a fait des superpositions de musique, de textes en mars en studio, qui marchait très bien, c'est un studio très bien mixé. Et puis on arrive sur le plateau et en fait on décale, on refait, on change un texte français pour un texte anglais. On fait pas un texte, mais on a une action vidéo, voilà. Donc c'est vraiment un travail qui se fait au jour le jour. Le spectacle, avant qu'on soit sur le travail sur le plateau, n'existe pas.
Pas de chemin tout tracé, mais des idées moteurs, des idées motrices. La voix d'Émilie Morin, on peut dire que c'est la personne qui vous assiste à la mise en scène, hein, Georges
Apergis. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ma mémoire. C'est ma mémoire. Elle est incroyable parce qu'elle se souvient vraiment du spectacle. De tous les détails, elle peut répondre à n'importe quel moment aux interprètes, à leurs questions, à leurs angoisses aussi. Donc oui, c'est quelqu'un de très précieux pour moi. Mais ce coup-ci, j'ai quand même préparé. J'ai préparé le spectacle à la table avant, parce que c'était trop compliqué pour le fabriquer que sur place. On a aussi fait des choses sur place, mais voilà, il fallait le préparer avant.
Là, elle est interrogée au moment de la création d'un précédent spectacle qui s'appelait Luna Park.
Oui.
Elle dit « L'idée motrice pour Georges, manifestement, c'était de réfléchir à la surveillance. Pour Thinking Things, quelle était l'idée motrice, l'idée de départ ?»
L'idée de départ, c'était de trouver comment le corps humain et le corps du robot coexistent. Comment il y a de l'humain dans le corps du robot, il y a du robot chez l'homme. Et en fait, montrer aussi le côté tueur du robot, c'est-à-dire par exemple les drones qui surveillent et qui peuvent tuer impunément, disons, puisqu'il n'y a pas de retour possible. Et puis le robot gentil, en fait, le robot... qui est là tous les jours pour assister, les prothèses médicales, en fait, tout ce qui est... Donc voilà, le côté méchant, gentil, comme chez l'homme, en fait, pour aller vite, et comment trouver des histoires à raconter avec ça, en prenant le spectateur à la fois pour très, très, très intelligent et à la fois pour un enfant. Voilà, qui est aussi très intelligent, mais d'une autre façon.
Émilie Morin, elle dit que dans la manière que vous avez de travailler, vous amassez, vous lissez des textes qui vous intéressent, vous écrivez de la musique évidemment, et puis vous produisez des images, on va y venir. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez lu des choses qui ont nourri la préparation de ce spectacle ?
J'ai lu un livre qui m'a beaucoup intéressé de Chamaillou.
Grégoire Chamaillou.
Chamaillou, qui s'appelle l'histoire du drone,
Une philosophie des drones, peut-être.
Quelque chose comme ça, oui.
La
théorie des drones, voilà. Qui est un livre magnifique. Et donc, entre autres, hein, j'en ai lu beaucoup d'autres. Sur Internet, j'ai lu des textes de. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est les publicités, les réclames américaines. Ça a l'air d'être très courant de se planter
des petites choses
robotiques, oui, sous la peau, des gens qui veulent, par exemple, se planter des choses dans l'œil pour pouvoir faire des zooms, comme une caméra, ou de l'infrarouge pour pouvoir voir dans le noir. Il y a des lèvres qui peuvent embrasser très loin. Bon, c'est complètement une industrie complètement florissante, quoi, en fait. Et donc, j'étais surpris en travaillant dessus de découvrir tout ça, quoi.
Il y a des choses d'ailleurs qui reviennent très directement et qui intègrent la partition chantée, la partition musicale, puisque ces textes publicitaires qui vantent des lèvres pour embrasser à distance ou des puces under the skin, on les entend intégrer à votre partition. Vous avez dit pour cette fois-ci, Georges Apergui, c'était pas possible de ne pas énormément travailler à la table avant de retrouver toute l'équipe artistique, parce que vous avez l'impression que c'était plus complexe, plus grand, plus épais que Machination et Luna Park, vos précédentes créations.
Oui, oui. Il y avait le robot en plus, mais c'est pas que ça. C'était, je pense que le spectacle était d'une autre nature en fait, d'une autre nature, c'est-à-dire qu'il y a des superpositions de deux mondes. Il y a un monde de façade comme ça, plus robotisé, disons. Et un monde en arrière-plan qui est un monde quotidien.
Une sorte de salon, un peu.
Où on ne sait pas, oui,
on voit un abat-jour et quelque chose de plus chaleureux, en tout cas.
C'est ça, plus chaleureux, plus quotidien. Et puis il y a un petit robot qui, lui, on ne sait pas très bien qui il est, mais qui est mort, qui naît, qui ressuscite, on ne sait pas très bien. Et qui fait partie de cette petite famille derrière, quoi. Oui.
On y reviendra parce qu'évidemment, le rapport au robot, qu'il s'agisse de petits robots ou du bras ou d'une tête, ça parle de notre mortalité, de la mortalité des autres, de ceux qui meurent, de ceux qui vivent. Mais peut-être pour donner une image d'ensemble, Georges Apergui, qu'est-ce qu'on voit quand on est spectateur et qu'on arrive dans le théâtre ? Quelle est la structure qui existe au plateau ?
On voit le dispositif que Daniel Lévy a créé pour ce spectacle. Et qui donne beaucoup de possibilités pour la mise en scène, en fait. C'est-à-dire que c'est juste un dispositif avec des fermetures, ouvertures de fenêtres, comme des fenêtres, qui fait qu'on peut disparaître, apparaître, on peut voir juste un bras ou une main,
ou
un torse ou une tête qui apparaît. Et donc ça, c'était ce que je voulais au début, c'est-à-dire de parler de ça un petit peu comme Méliès. Comme une espèce de trouver une espèce de magie de ça. C'est pour ça que j'ai parlé d'enfants tout à l'heure. C'était voilà, de trouver ça.
J'ai pensé même au théâtre de Guignol. J'ai pensé parfois à la manière dont les choses apparaissent, disparaissent et sont faites de pas grand chose pour créer une vie, une scène, quelque chose qui se passe en fait.
Oui, c'est ça. C'est proche de Guignol. D'ailleurs, il y a une scène où Lionel Peintre,
un des interprètes,
joue avec ses mains. Et ces deux personnages, en fait, exactement comme les Guignols, en fait. Oui.
Peut-être revenir pour terminer l'introduction de notre discussion sur ce titre, Thinking Things. Si vous essayez de le traduire en français, ça donnerait quoi ?
C'est les choses pensantes, les choses qui pensent, parce qu'on va vers ça, en fait. C'est-à-dire que c'est fini maintenant le mouvement robotique uniquement ou la ressemblance à l'homme, etc. C'est maintenant c'est des programmes qui font penser le robot, puisqu'il gagne des parties d'échecs, par exemple. Donc là, c'est le début de ça, quoi. Mais je voulais pas du tout en faire ni une chose épouvantable, ni une chose tragique.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il y a aucun jugement. C'est juste une sorte d'état des lieux.
Voilà, c'est ça. On en est là, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le spectacle finit comme ça, d'ailleurs. Il y a la petite famille derrière qui est un peu comme une photo fixe, et les bras du robot qui continue à arpenter l'espace comme ça, puis ça s'arrête. On verra bien la suite au prochain épisode.
Moi, il y a autre chose que ça a évoqué pour moi, ce titre « Thinking Things », c'est aussi la manière dont il me semble que votre travail, depuis quelques années en tout cas, réussit à mettre sur scène des fonctionnements mentaux. Comme si toute cette machine de fenêtres qui s'ouvrent, se ferment, ça pouvait être aussi l'intérieur d'un cerveau. Oui. Ça peut être aussi ce qui s'entend dans un hémisphère, ce qui se transmet comme information. Comme si vous réussissiez à mettre à plat l'intérieur d'une tête, peut-être la vôtre par exemple.
Oui, oui, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup aussi à ma façon de travailler. C'est-à-dire que finalement, ce que vous avez vu dans le spectacle pourrait être dispatché autrement. C'est-à-dire que la séquence 12 pourrait être la première. On pourrait faire le spectacle indéfiniment s'il y avait le temps, quoi. Comme quand on est en demi-sommeil, quand on somnole et puis les idées viennent et partent comme ça. Oui, oui, ça ressemble beaucoup à ça.
Et la manière de travailler, c'est de fixer ça ou c'est de rendre visible ce fonctionnement mental?
C'est-à-dire que il y a des choses, des associations d'idées qui viennent, des choses qui viennent sur place aussi, des erreurs. Par exemple, à un moment donné, il y a une projection du petit corps qui est porté par Joanne Saunier, et on la voit venir du fond, et puis, à un moment donné, il y a eu cette projection-là sur un autre écran, et il y avait Richard Dubesky qui était au-dessus pour autre chose. Et les deux choses ensemble, c'était juste une faute. Je crois que c'est la plus belle image du spectacle.
C'est la plus belle image du spectacle.
Oui.
On ne voit que son torse, et on voit le corps d'une femme qui porte ce qu'on devine être un robot, mais ce qui au départ est vraiment un linceul d'enfant, quoi, de petit corps. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle image.
Oui,
et c'est une
aussi.
Erreur.
Oui, c'était le hasard, quoi. C'était le hasard qui, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté tout. Bon.
On garde.
Donc la longueur de la séquence change, puisqu'elle était intéressante, et il faut du temps pour rêver dessus. Donc la musique change de longueur aussi, c'est-à-dire qu'il faut la travailler autrement. C'est un peu comme ça que je travaille, en fait. C'est que les choses sont on peut les sculpter jusqu'au bout. Il n'y a pas de... On s'arrête parce qu'il faut jouer.
Il faut jouer. Vous parliez de Méliès, on va en parler un peu plus.
Je n'ai jamais vu un homme capable de produire ce que M. Méliès a produit de toutes les façons. Il jouait du piano, il vous expliquait ce qu'il voulait, il le dessinait. Et moi, j'étais en admiration devant cet homme, et tout le monde d'ailleurs, il n'y avait pas que moi, n'est-ce pas? On ne pouvait pas ne pas l'admirer, puisque tout ce qu'il faisait était extraordinaire. Tout le monde travaillait dans ce studio avec la seule idée de faire plaisir à M. Méliès. Mais c'est un résultat que je n'ai jamais connu nulle part.
On parle du magicien Méliès. Avec lui, l'impossible devient possible. Le Christ marche sur les eaux. L'omnibus Madeleine Bastille se transforme en corbillard, en un clin d'œil. Des nymphes potelées nagent dans les airs. Les noirs deviennent blancs. C'est le roi du truc.
Le roi du truc, dit ce petit extrait de documentaire diffusé en 1965 et consacré au cinéma de Méliès. Vous y faisiez référence, Georges Aperguis, au tout départ de notre entretien pour dire « Je cherchais quelque chose comme ça », c'est-à-dire quelque chose comment ?
Qui a à faire avec la magie. C'est-à-dire, oui, des transformations absolument inédites, des choses qu'on... Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que c'est très simple. Et j'aime pas beaucoup la magie très sophistiquée. En fait, c'est pour ça que Méliès, c'est magnifique, parce que c'est une chose, une tête qui gonfle comme ça et qui éclate, c'est formidable, quoi. C'est pas, donc, comment trouver, comment rendre la réalité, enfin, ce qu'on croit être la réalité, complètement différente d'un coup. Exactement comme on disait tout à l'heure avec l'écran qui, la faute, quoi. Tout d'un coup, il y a une faute et on voit une autre réalité devant nous. Quoi.
Et ça, ça passe par des petites modifications. Vous dites que c'est très simple. Et est-ce que c'est pour ça que parfois, presque, on peut voir le truc, justement?
Oui, c'est ça. J'aime beaucoup quand on voit. Des fois, on peut ne pas le voir, mais enfin, c'est pas, moi, c'est ce qui m'attire le plus. Ce que j'aime beaucoup en musique aussi, c'est quand les choses sont très, très simples. Elle dégage une énergie, il y a une émotion énorme avec peu de choses, avec juste des modulations. Je parle de musique classique là, mais.
Vous avez travaillé pendant combien de temps sur Thinking Things?
Ça a commencé au tout début. Ça a commencé il y a 3 ans, en fait. Mais il y a eu, c'était pas le même spectacle. C'était d'autres idées. Je connaissais pas bien le robot, donc j'ai appris à le connaître peu à peu. Et en fait, les partitions, je les ai écrites il y a 1 an. Et puis, le spectacle lui-même, il est venu il y a pas longtemps, en fait. Il est venu il y a quelques mois. Ouais, et puis, on a répété un mois, je crois, un tout.
Justement, moi, j'ai eu la chance d'assister à une petite heure et demie de répétition et je vous voyais travailler avec toute votre équipe de manière extrêmement minutieuse sur quasiment parfois 50 secondes du spectacle où vous repreniez, non seulement, je pense, pour ajuster des choses, mais aussi pour que tout le monde soit à l'œuvre en même temps. Et quand je dis tout le monde, je me réfère à ce qu'on entendait dans le documentaire là, consacré à Méliès. Tout le monde fait en sorte de satisfaire ou d'aller dans le sens de la vision de Méliès. Et là, j'avais l'impression, dans cette salle du Centre Pompidou, que tout le monde s'affairait pour réussir à produire une vision qui s'accordait à la vôtre, d'une certaine manière, Georges Aperdis. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Oui, en tout cas, au service du spectacle. Quoi.
Au service du spectacle.
C'est le spectacle qui compte. Et donc, oui. Oui, c'est comme une horlogerie, quoi, en fait. Il faut que chaque chose soit à sa place. Mais ça, c'est comme les... prestidigitateur, hein, c'est-à-dire que c'est le timing parfait pour que l'illusion ait lieu. Quoi.
Alors, qui est là? Qui sont les prestidigitateurs qui sont cachés dans l'ombre pour que ça fonctionne? Le vidéaste, projeteur?
Il y a Pierre Nouvel qui a fait la vidéo et qui a aussi conçu les robots qu'il a construits. Il y a Daniel Lévy qui a fait le dispositif, les lumières. Il y a les 4
interprètes,
donc Lionel Peintre, Donatien, Michel Danzac, Johan Saunier et Richard Dubelski. Et il y a Olivier Pasquet qui a fait l'électronique avec moi, musicale, donc à l'IRCAM. Et puis bien d'autres. Enfin, on était nombreux, en fait. Et c'est à la fois très fatigant et c'est très exaltant de faire ça, de travailler comme ça.
C'est un endroit où vous aimez bien être? L'endroit où, après avoir été très seul pour écrire la partition, vous vous retrouvez avec tellement de gens autour de vous.
Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup cette et c'est là où Émilie Morin elle est précieuse parce que elle fait le lien avec la mémoire du spectacle. Parce que moi, je suis sur le présent. Sur ce qu'il faut faire, sur le balance, sur le temps qui passe, tout ça. Elle va inventer la chose au fur et à mesure. Et elle a toute la mémoire. Donc elle sait ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Parce que moi, peut-être exprès, je perds un peu le fil du spectacle.
Pour ne se concentrer que sur la vision des petites choses par petites choses par petites choses.
Voilà, voilà.
Alors ça veut dire que quand l'autre soir se jouait la pièce en entier, vous êtes un spectateur comme nous?
Non, parce que là, je le connais. Je le connais. Puis quand je le connais, je commence à me désintéresser un peu. Hier, je n'ai pas bien regardé, j'étais déjà un peu distant, quoi.
Est-ce que vous êtes étonné que tout tienne? Ça dure à peu près 1 heure, et en effet, le nombre de choses qui se passent, de vidéos, de projections, d'interprétations musicales, de mouvements des robots, est très grand, on va dire ça, hein, quand même, Georges Aperdis, dans ce spectacle-là. Oui. Est-ce que vous vous dites, ok, tout est en train de marcher, c'est incroyable?
Oui, à chaque moment, hein. Ça, c'était vraiment la peur que j'avais. C'est le risque du spectacle. Hein. C'était une prise de risque maximum. Là, j'ai jamais eu... Parce que tout pouvait s'arrêter à n'importe quel moment.
Pourquoi?
Parce qu'il peut y avoir une panne. Par exemple, hier, il y a une caméra qui s'est mise au fixe, quoi, comme sur pause, pendant une minute ou deux. tout ça, simplement parce qu'il faisait chaud, trop chaud avec les, public, hein, et parce que c'est des choses très fragiles, donc il y a des fois le micro, aux répétitions, le micro s'arrêtait, il y a des moments où le bras du robot ne marche pas, ou même se détache, il y a des choses imprévisibles comme ça, puis les ordinateurs, s'ils arrêtent, ils arrêtent. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je me demandais quoi faire, d'ailleurs, si ça arrivait pendant
le
spectacle.
Vous en avez parlé tous ensemble ou pas?
Non, moi, je travaillais dans ma tête un peu pour me dire quel discours t'es mis, en fait, justement, sur la
robotisation,
fragilité.
Robotisation, bien sûr, ouais, la fragilité des machines. Ouais. Et vous auriez dit quoi, alors, au spectacle?
Je sais pas, c'était trop angoissant pour que j'aille au bout de ma réflexion. J'étais traversé par autre chose à un moment donné. Ouais.
それはみんなことごとく仏の性質があるって言うんだよね。仏の性質って言うとなんか抽象的だけど、意識があるってことだよ。だから無意識、あの機械でも意識があると思ってやってるわけ。
そのままもう機械としての処分じゃなくて、やはりその検体という形にすることによって、やっぱり心が落ち着かれますよね。それが第一番だと思います。ですからそういう意味合いで我々のところに送っていただくことが多いと思ってます。
On vient d'assister à distance à une cérémonie mortuaire d'un robot chien au Japon, Georges Apergis, avec un petit discours de préambule et ensuite une sorte de chant produit par d'autres robots. On se dit qu'il y a quelque chose dans des images centrales de votre dernière création qui a à voir à ce jusque-boutiste de notre relation actuelle et future avec les robots, c'est-à-dire de les accompagner, y compris dans la mort. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans?
Ça, j'avais lu des textes là-dessus sur des cérémonies funéraires au Japon. Ça m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire que c'est à la fois un simulacre et à la fois...
Ça se passe vraiment?
C'est réel. Donc, c'est là où le robot devient quelque chose qui pourrait devenir très, très inquiétant plus tard. Si ça devient des icônes, en fait, c'est bon. Ça, c'est à voir. Ça dépend de l'intelligence humaine. Là, c'est pas l'intelligence du robot, mais voilà. Et donc, il y a eu cet enfant qui arrive, qu'on sait pas très bien ce qu'il est, en fait. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il ressuscite après? Est-ce qu'il est en train de se faire sur place? Parce qu'on voit des gens qui le manipulent et qui le filment comme si ils sont en train de
lui rajouter des pièces,
de le finir, en fait. Et puis tout d'un coup, il se met à parler en disant, je ne suis pas une faute. Et sa maman, on a l'impression que c'est une maman. Je pensais à une Pietà, hein, vraiment.
C'est très clair.
Ouais. Oui, oui. Et donc, elle lui dit, si. Et donc, voilà. C'est le début du robot, quoi, en fait.
Et d'ailleurs, il passe pas mal de temps sur une sorte de nuage, de poumon aussi, cette matière qui se gonfle d'air et se vide d'air. Là aussi, ça peut être une image à la fois de linceul, mais aussi de berceau. On sent très bien que le tout début de la vie et la fin de la vie se touchent complètement à l'endroit de cette image-là pour vous, Georges Aperghis.
Oui, ça c'est aussi une chose qui s'est faite d'elle-même presque, parce qu'au début, je voulais que tout le dispositif respire, en fait, à un moment donné.
Tout le cadre, tout avec toutes les fenêtres dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres. Bon, après, j'ai vu que c'était pas possible, c'était compliqué. Donc, c'était une fenêtre qui devait respirer. Et puis, j'ai fait la liaison avec le petit robot beaucoup plus tard, en fait. Je me suis dit, c'est là que c'est... Parce que là, c'est la respiration du robot, même si le poumon, il est externe. Mais au moins, on fait la liaison de deux images, quoi.
Mais justement, vous travaillez comment à la table, en dehors de la partition musicale sur laquelle on va venir? Mais ça veut dire que vous écrivez aussi des images, vous dessinez?
Ah, beaucoup, oui. Oui, je dessine beaucoup, j'écris beaucoup. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de parler. C'est-à-dire qu'Émilie prend des notes.
Donc Émilie Morin, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, mon assistante prend des notes, et puis moi je dis, et puis elle me répond, et puis
elle me dit non. Vous racontez, vous dites il se passe ça,
oui,
Émilie,
oui, il devrait aller là. Oui, je raconte les images, je raconte en même temps que les moments d'électronique, en même temps que les partitions et tout ça. Et là, les partitions devant elle, donc elle est beaucoup plus concrète que moi. Moi, je rêve un peu comme ça. Et puis finalement, la chose devient comme une espèce de scénario de cinéma, avec bande-son, lumière, robot.
Et tout avance en même temps.
Et tout avance en même temps, voilà.
On le disait tout à l'heure très brièvement, mais il y a vraiment des morceaux de robots, hein. Il y a un bras robotisé, oui, par exemple. Il y a deux têtes de robot.
Il y a une tête.
Une tête de robot. Si bien que cette espèce de grand cadre avec des fenêtres peut aussi être un corps qui est chapeauté par une tête, qui a un bras à un endroit, et puis le reste peut être une espèce de grand ventre qui s'anime avec des humains. Ça, vous avez travaillé comment pour obtenir ça?
Mais c'était, la première idée, c'était un totem, en fait. Ma toute première idée, c'était un totem qui une espèce d'énorme corps composite, quoi, par des humains et par des robots. Et donc, des morceaux qui respirent, des morceaux qui bougent, des morceaux qui... c'était la première idée. Et en fait, on y est arrivé avec Daniel Lévy à la préserver, en fait, d'une certaine façon, et à la rendre le plus fluide possible pour le spectacle. C'est-à-dire une chose qui devient opaque, tout d'un coup, pour qu'on puisse projeter dessus de face, et puis tout d'un coup transparente quand c'est éclairé derrière, et donc on peut voir ce qui se passe derrière en vrai et sur la vidéo. C'était pas facile, on a mis du temps, et Daniel, je crois qu'il a eu pas mal d'angoisse avant d'arriver à ce dispositif finalement.
On va entendre la voix maintenant d'Aurélien Bory, metteur en scène, qui en 2015 nous parlait précisément du travail qu'il fait avec les humains et avec les robots.
Souvent, quand on parle de la technologie, on parle du numérique, cette technologie n'a pas de corps. Et donc, moi qui suis sur le terrain physique, sur le terrain du plateau, ce théâtre, où je dis souvent, c'est un des seuls endroits de l'art où on ne peut échapper aux lois de la mécanique générale. Donc, c'est sur le terrain physique que j'aime placer mon travail. Et donc, je me dis, mais c'est quoi la technologie avec un corps, le corps de la technologie? Il y a le corps humain, on le connaît, on le connaît pas. Et puis, quel est le corps de la technologie? Et donc, je suis arrivé à cette idée du robot par ce corps, par cette idée du corps. Et donc, ce robot industriel a un corps doué de mouvement, doué d'action. Et chez moi, l'acteur joue avec son corps principalement et agit avec son corps. Donc d'une certaine manière, il parlait le même langage, et c'est sur ce terrain physique que j'ai voulu aborder le travail. Et c'est vraiment dans cette recherche du vivant, c'est-à-dire qu'on sente la vie dans cette machine, de même que les acteurs, les deux circassiens qui sont en dialogue avec cette machine, se mécanisent leurs mouvements, se rapprochent de la machine, suivent la machine. Il y a quand même un réflexe anthropomorphique qui appartient donc à l'homme et qui appartient à son regard. C'est incroyable comme le regard est anthropomorphique. On cherche la figure de l'homme dans tout ce qu'on regarde.
Upgrade your ears. Elective auditory implants give you cyborg hearing. Upgrade your ears. Elective auditory implants give you cyborg hearing. Upgrade your ears. Elective auditory implants give you cyborg hearing. Elective auditory ears. Elective auditory implants give you cyborg hearing. 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 Elective auditory implants give you cyborg hearing.
Par le temps qui court, Marie Richeux.
Jean-Jacques Perkis, on entendait à l'instant Aurélien Bory dire d'une certaine manière « Je voudrais que mes interprètes humains et mes interprètes robots, si on peut dire, parlent un langage commun. » Et on entend là, ici, un extrait sonore de Thinking Things, votre dernière création. Et je me demande dans quelle mesure vous n'avez pas, vous aussi, cherché une sorte de langue commune possible ou d'une langue maternelle pour les robots ou en tout cas d'un dialogue possible entre tous les corps.
Un dialogue, oui, certainement, oui, oui. D'ailleurs, il y a des moments très précis là-dessus où il y a une danse, par exemple, où Joan Sonnier danse avec une jambe nue et à côté, il y a la jambe du robot. Et il y a une espèce de duo entre les deux, et puis le bras aussi du robot. Et donc oui, bien sûr. Et puis la tête qui chante, qu'on vient d'entendre aussi, la tête qui est au-dessus, qui est robotique. Et donc, mais c'est vrai dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que comme on donne sens à tout, de toute façon, à tout ce qui se passe. On essaye de donner un sens à ce qui se passe, même s'il n'y a pas de sens. Et c'est pareil, on donne un corps humain ou une tête humaine à un nuage qui passe ou à une ombre, à n'importe quoi. Et la petite tête, elle est programmée pour parler sur le rythme. Mais même si elle n'est pas sur le rythme, parce que la répétition n'arrive pas, on s'arrange pour que ce soit. Oui, c'est très... Très beau, je trouve, parce que ça raconte beaucoup sur nous, en fait.
Ça raconte la manière dont notre regard est extrêmement actif et agit sur ce qu'on est Absolument. En train de regarder. Et d'ailleurs, il le mentionnait, Aurélien Bory, l'importance du regard. Il y a quelque chose, il y a une image qui me revient aussi dans votre spectacle, c'est le dessin d'un œil sur un œil fermé, et qui dit, même quand l'œil est fermé, on continue de regarder, on continue de voir, comme s'il y avait quelque chose de très, très persistant dans notre volonté de voir le monde.
Oui, oui. Ah oui, on arrange les réalités énormément, en fait. C'est pour ça que quand il y a un accident, par exemple, s'il y a 10 spectateurs de l'accident, il y a 10 versions de l'accident, parce que chacun voit autre chose, la même chose, mais autrement, en fait. C'est ça qui est.
Et vous, faire de l'art, composer de la musique, écrire des spectacles de théâtre musical, c'est une manière de voir, c'est une manière de justement participer à cette quête de sens. C'est quel genre de rapport au monde?
C'est un peu ça. C'est à la fois de dire que finalement c'est illusoire de tout ça est illusion en fait que on est là, on n'est plus là. Voilà, c'est comme les marionnettes au théâtre, comme on dit. Elles font trois tours et puis s'en vont. Il y a ça. Il y a des moments quand même très forts où on est ému quand même dans la vie. Il y a des moments à la fois comiques, à la fois tragiques, à la fois bon. Donc, comment constituer un corps de tout ça qui est éphémère en fait. C'est-à-dire que ce spectacle, il est bon, il a eu lieu pour moi en tout cas, il est éphémère. Là, là c'est à des gens de le découvrir, mais moi je le connais maintenant, ça suffit, il faut que je passe à autre chose.
C'est une vraie grande réflexion aussi sur les affects. Hein. Je ne sais pas exactement quelle est la phrase en anglais, mais c'est si vous voulez vous en débarrasser, vous n'avez qu'à transmettre votre conscience à un robot.
C'est ça, c'est oui, oui. Si vous voulez vivre internellement, vous n'avez que. Oui, c'est ça. Vous mettez votre conscience dans un corps de robot, en fait, parce que lui, il est éternel. Oui, 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 mais c'est des choses très. Des paradoxes très curieux. Hein. C'est très, très intéressant de voir les publicités de robots, jusqu'où elles vont, parce que ça touche la philosophie, ça touche les religions, par exemple.
Et ça suit aussi, je trouve, la manière dont vous pouvez écrire de la musique, Georges Apergui, c'est-à-dire qu'il y a des impermanences, vous disiez tout à l'heure, il y a des moments dans la vie où on est très ému, pour des raisons tragiques ou comiques. À ce moment-là, par exemple, musicalement, ça peut se traduire par un véritable lyrisme absolument assumé. Et puis d'autres moments où des choses presque, on peut s'absenter de la vie, on peut devenir nous aussi presque robotique et avoir une distance plus grande. Et dans ce cas-là, on sent que votre écriture musicale, elle peut aussi suivre ce mouvement-là et travailler des choses qui vont être plus loin des affects. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous comprenez votre écriture ?
Oui, oui, je travaille comme ça en fait. C'est-à-dire, par exemple, au début, donc la Pietà, donc la dame avec l'enfant robot, elle pose sur ce qu'on peut appeler un lit qui respire en fait, ou un linceul, on ne sait pas très bien. Et à ce moment-là, ça continuait immédiatement, la séquence du robot continue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait les deux personnes qui viennent le finir, le visser la dernière chose, le filmer, etc. Et là, j'ai arrêté parce que ça devenait trop dramatique, disons, trop sentimental. J'aime pas quand ça devient sentimental. Pour moi, c'est l'enfer. Donc, j'ai introduit là une séquence que j'avais prévue pour plus tard, qui est la séquence du téléphone portable. C'est-à-dire, elle pose le gamin, et puis on s'est dit, là, il va se passer quelque chose avec le gamin. Et non, ça sonne, et puis il y a deux personnes qui se parlent. Donc, il y a des interférences comme ça pour casser des choses qui sont ou trop comiques, ou trop dramatiques, ou pour amener toujours le contrepoint, en fait.
Pourquoi ?
Parce que je vis comme ça, je sens la vie comme ça, en fait. C'est que tout est précaire, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il va se passer ça, ben non, il y a autre chose qui se passe. Et je veux transmettre ça, ma façon d'être aux aguets, en fait. Parce que je fais pas confiance à une continuité quelconque.
Et c'est ce que j'allais dire, c'est comme s'il y avait une impossibilité totale de continuum, de,
oui.
Alors je ne sais pas si ça touche jusqu'à la notion d'une harmonie, mais en tout cas d'une linéarité, c'est sûr qu'elle est. On sent qu'elle est impossible.
Oui.
Et quand elle guette, vous la brisez.
Oui, oui, oui. Oui, pour moi, oui. Là, il y a peut-être ce spectacle un peu plus linéaire que les autres, à cause du petit robot. Parce qu'on suit l'apprentissage du petit robot, les gens qui lui racontent des histoires, tout ça. Mais en réalité, non, il est beaucoup plus concassé que les autres, je pense.
Et d'ailleurs, il y a une quand même linéarité, c'est cette scène où l'un de vos interprètes fait une scène de généalogie qui pourrait être une généalogie de l'Iliade ou de Shakespeare, par exemple, et il répète « son of, je suis le fils de ». Là, il me semble qu'il y a une forme de linéarité qui nous apparaît, elle est très succincte,
oui.
Mais elle dit « il y a des choses qui sont en continuité quand même dans le monde des hommes ».
Oui, 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 c'est ça, mais c'était la copie de... En fait, comme la Bible... Je voulais faire la Bible du robot, en fait, c'est-à-dire, oui, toute sa généalogie avant lui, tout, oui, oui.
Pourquoi ?
Parce que je pensais que c'était comme une nouvelle arrivée, quoi, des êtres complètement, comme on disait pour le Japon, c'est-à-dire des êtres qui sont comme des icônes, comme des bientôt comme des exemples à suivre peut-être d'ailleurs. Donc je me disais il faut leur donner leur lettre
leur
de noblesse
en fait. Leur ancienneté aussi, oui, éventuellement,
oui.
Peut-être une,
oui,
sorte de profondeur
ancienneté.
De champ.
Oui,
quoi.
Oui, c'est ça.
S'ils arrivent, il faut qu'ils arrivent avec une petite mythologie.
Avec une histoire derrière. Et je pense que ça fait longtemps maintenant qu'ils existent, donc il y a le fils d'un tel, le fils d'un tel.
Je suis né et développé dans un milieu musical d'opéra en Italie. Je travaillais beaucoup dans l'opéra, mais aussi dans ma jeunesse, au conservatoire. J'étais pianiste pour des années avec des chanteurs. J'ai dirigé des opéras moi-même, Donizetti, Verdi, comme ça. Alors, je pense que la technique de chant conventionnelle, ce qu'on, d'une façon très générale, on appelle le bel canto, est une technique très difficile, qui a donné des choses capitales pour la musique, mais très, très partielle aussi. Et aussi très sévère, du point de vue qu'elle élimine beaucoup de choses de la voix humaine qui sont autrement importantes que la production d'une note avec une durée établie. C'est-à-dire d'une production vocale qui a comme modèle implicite toujours l'instrument de musique. La musique met en valeur certaines parties du texte et détruit les autres. En effet, pour moi, l'écrit de la musique vocale, le premier pas, c'est comme détruire le texte pour en faire sortir des significations qui sont pertinentes, qui sont le plus important à un moment donné. Et pour mettre en lumière une certaine valeur sémantique du texte, une valeur poétique d'un texte littéraire, il faut considérer le texte pas seulement du point de vue évidemment de la grammaire, de la métrique, ça, mais aussi du point de vue phonétique. C'est-à-dire, il faut l'intégrer comme élément sonore au contexte. Pour moi, la voix, ce n'est pas un instrument, c'est un champ de possibilités, parce que la voix, c'est une chose assez curieuse en soi, et très complexe évidemment. La voix fait un rapport avec le langage. La voix, c'est le système d'articulation des sons et des symboles vocaux que nous portons avec nous pendant notre vie quotidienne aussi. La voix, ce n'est pas un violon. Un violoniste, après qu'il a fini de jouer, il met le violon dans sa cassette et il va se coucher. Tandis que l'homme porte sa voix toujours avec lui. On peut acheter du pain, on peut acheter des gitanes, des cigarettes, on peut chanter, on peut faire n'importe quoi. La voix est toujours avec nous. C'est ça qui m'intéresse. Heidegger, le philosophe, qui a dit que le langage est la maison de l'être. Bon, la voix, en effet, c'est un peu le miroir de tout ça. Et chaque fois, je tâche de découvrir des aspects qui m'intéressent. Pas des aspects nouveaux, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la voix. Tout est déjà là. Mais de la passer dans un contexte du démusical que peut-être peut faire découvrir de virtualité de la voix qui m'intéresse du point de vue musical. Quand je dis que je déteste les principes, ça veut dire que je n'ai pas de principes. Parce que même si je décide de n'avoir pas de principes, c'est déjà un principe en soi-même. Alors j'ai des principes, j'essaie d'être le plus conscient possible des principes qui règlent ma pensée, mon action.
Bonnie's progress could come fast. They have already received successful transplant with the tiny trachea produced in one of the machines.
Qu'est-ce Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça sans voir les images, Georges Aterguis?
J'ai pensé à ça justement.
Oui, je me disais.
J'étais surpris de. Je suis tellement habitué à la liaison avec les images que.
Et avec le corps des interprètes.
Et avec le corps des interprètes. Là, on sent un corps, oui, qui pourrait être un corps robotique aussi, ou un objet qui. Un matelas qui se met à respirer. On sait pas très bien.
Est-ce que il m'a semblé que peut-être plus que d'autres choses, et puis on va revenir évidemment sur l'archive qu'on vient d'entendre de Luciano Berio, mais est-ce que plus que d'autres pièces ou d'autres partitions, le souffle était encore plus présent? Vous avez dit tout à l'heure, j'avais envie que tout mon spectacle respire,
oui.
Et j'ai pas pu faire un décor entier qui respirait. On l'a dit, il y a juste ce petit endroit qui respire, mais j'ai trouvé que dans l'écriture musicale, c'était très présent, peut-être plus que d'habitude.
Oui, c'est une chose qui me tout ce qui est respiration, étouffement, enfin tout ce qui est autour de poumons et tout ça, ça m'accompagne depuis longtemps. Enfin, c'est une obsession que j'ai. Et là, oui, il y a même une séquence qui était où tout devait se mettre à respirer en fait, et j'avais fait. J'avais des idées de polyphonie sur le souffle de tout le monde que j'ai pas fait parce que je n'avais que le petit espace de respiration qui était là, donc c'était disproportionné, mais enfin oui, ça m'intéresse beaucoup en fait.
On entendait donc dans la voix de Luciano Berio, c'est une archive de 2010, il dit beaucoup de choses. Peut-être la première, une idée principale, considérant la voix comme un grand champ de possibilités qui a été très longtemps, notamment dans l'opéra, utilisé que d'une certaine manière et très calqué sur les possibilités de l'instrument. D'une certaine manière, Georges Aterguis, vous suivez vous aussi ce genre de rapport à la voix humaine?
Oh oui, je suis complètement d'accord. Il dit en plus avec une clarté incroyable que je pourrais pas dire moi, mais c'est très très clair ce qu'il dit et c'est absolument juste.
Dépasser l'usage de la voix, trop calqué sur l'idée d'un instrument.
Absolument, parce qu'il la voit parler, les phonèmes, il parle du langage, mais c'est exactement ça. La déconstruction de la langue, la fabrication d'autres langues musicales, toujours. La voix, ça peut passer d'un sens absolument précis, un sens sans équivoque, à une abstraction totale, à des choses qui font penser à des pays, à des. Et en plus, les voix ne se ressemblent pas parce que quelqu'un, un vieux du Mali, un vieux du Japon, un vieux grec, c'est des voix qui ont vécu, parce que la voix vit avec le corps, donc qui ont vécu autrement, et donc les voix sont différentes, et c'est une richesse absolue, ça, c'est pas... Alors, non, mais il en parle évidemment très très bien.
Avant de vous interroger sur ce que vous entretenez comme rapport avec la voix des interprètes, qui sont vraiment des personnes qui travaillent avec vous depuis longtemps, ou vous travaillez avec elles aussi depuis longtemps, j'étais curieuse de savoir quel rapport vous entretenez avec votre propre voix.
Moi, j'ai une histoire bizarre avec ma voix parce que j'avais pas cette voix-là quand j'étais jeune, évidemment, parce que j'étais en Grèce. Donc, les voix là-bas sont tonitruantes. Hein. Je me souviens que mes parents, quand ils s'est parlé, les gens croyaient qu'ils s'est...
Qu'ils s'engueulaient,
en fait. Oui, oui, à Paris, quand ils venaient à Paris. Et je sais pas, elle s'est normalisée, disons. Elle a pris un côté européen, peu à peu. Et voilà, j'ai pas une voix très... D'ailleurs, j'ai beaucoup du mal à... Quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de monde qui parle, j'ai beaucoup du mal à intervenir parce que personne n'entend ce que je raconte. Les gens sont beaucoup plus fortés que moi. Je suis piano. Voilà.
Et piano, c'est plus européen que les
Grecs. Je ne sais pas. Je me demande pourquoi elle s'est transformée. Je pense que c'était une façon de passer inaperçue, quoi.
Et voilà. C'est quoi? C'est une sorte de voix de l'exil, alors? Cette voix qui parle un petit peu moins fort que les autres?
Oh, je dirais pas parce que j'étais pas exilé, hein, mais c'était une façon de me mettre un peu dans la foule.
Lorsque vous écrivez, Georges Aterguis, c'est que vous savez que vous allez travailler avec Lionel Peintre, avec tous les interprètes que l'on a cités tout à l'heure.
Oui.
Vous écrivez en connaissant la plasticité de leur voix, en connaissant le son de leur voix.
Ah, oui,
vous
oui,
les
là,
entendez
là,
dans votre tête, par exemple?
Là, oui. Oui, oui, oui. Absolument. Dans ce cas précis, oui. Évidemment, quand j'écris pour des gens que je ne connais pas, là, ça fait appel à d'autres images quoi, dans la tête. Mais le spectacle était trop compliqué à faire pour que je fasse des rencontres nouvelles dans l'élaboration du spectacle. Donc là,
les quatre interprètes sont de vieux familiers, quoi. Donc, on a fait beaucoup d'aventures ensemble. Et... Oui, je savais absolument. Je savais absolument.
Alors, comment vous travaillez lorsque vous travaillez pour d'autres ensembles? Parce que vous écrivez aussi, ça vous arrive hein, d'écrire pour d'autres ensembles ah oui, vocaux oui. dans le monde. Et là, d'un seul coup, vous ne pouvez plus entendre des voix très très précises que vous connaissez pour avoir oui. travaillé avec elles. Mais vous entendez quoi dans votre tête?
Oh, j'attends ma musique à moi, mais sans une matérialité aussi poussée, quoi. Mais souvent, je demande des photos des chanteurs.
Ah bon?
Oui, oui. Au moins, je peux me raccrocher sur une voix.
Ah ouais,
je préfère
marrant.
La photo qu'un enregistrement de la voix, par exemple, qui est trop trompeur, qui me limite un peu.
Ouais, c'est
oui,
ça,
qui me limite dans moi. Oui. Oui. La photo, on peut rêver dessus. Sur la voix de la photo. Oui, quelle voix elle a, cette photo. Bon, on peut rêver un peu.
Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire?
Voilà. Voilà. Et puis, bah, des fois, on se trompe complètement, mais c'est pas grave.
Ce que disait aussi Luciano Berio dans cette archive, c'est que la musique vient là pour détruire le texte. Et vous disiez d'une certaine manière, vous aussi, Georges Aperghis, parfois, la voix, elle sert un sens clairvoyant, absolument sans équivoque. Et puis parfois, non, on va chercher dans quelque chose qui nous éloigne du sens.
Oui, oui.
Vous aussi, tout le temps, vous naviguez sur des choses qu'on peut entendre, qui sont quasiment, j'allais dire, lisibles, et parfois non.
Oui, on peut jouer d'ailleurs, on peut jouer aussi, doser le sens. C'est-à-dire que, on peut faire en sorte que les gens trouvent un sens. Ce qu'on disait tout à l'heure, on trouve un sens à propos de tout. Donc, leur donner juste quelques syllabes qui peuvent faire sens, mais qui changent de position à chaque fois. Et donc, le sens change aussi. Et c'est un jeu de fausses pistes, en fait. Et c'est toujours pareil, c'est la petite magie.
De Méliès.
Méliès, oui.
Et Aperghis.
C'est retrouver, c'est perdre, c'est retrouver.
Et il vous
croire que c'est ça.
C'est ça, il vous importe peu de savoir ce que nous croyons, au final.
Ah si, moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les versions. Par exemple, après les spectacles, des gens qui me disent des choses complètement différentes. Et ça m'intéresse beaucoup.
Est-ce que parfois, par exemple, pour Thinking Things, il y a précisément des choses auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé? Des choses qui ont été vues, qui ont été senties ou entendues et que vous n'aviez peut-être pas du tout mises là.
Ça arrive souvent, hein, ça. J'ai pas suffisamment discuté avec les gens profondément pour savoir, mais ça arrive souvent. Et même moi, il y a des choses dans le spectacle que je comprends pas vraiment complètement.
Dans celui-ci, par exemple?
Oui, je vois pas la nécessité absolue qu'ils soient là, mais ils sont là. Et
comme quoi?
C'est pas, il y a par exemple un dialogue entre deux bras robotiques qui me paraît très bien à sa place et mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est comme s'il était là de lui-même, quoi. Je sais pas. C'est bizarre.
Il est vrai que écouter la musique implique beaucoup de choses à la fois, dont une est de sentir d'une manière directe, sans réfléchir. Et c'est dans ce sens-là, c'est une approche très importante. Je pense que dans une musique, il y a l'approche immédiate, qui est très importante. Si elle ne se fait pas, c'est qu'il y a manque. Si elle se fait, alors c'est un bon départ, c'est essentiel, c'est fondamental, car à travers cet intérêt immédiat, le monde qui peut être inclus dans une musique devient éloquent. Alors, dans le cas des ensembles très vastes de sons individuels considérés comme des ensembles, avec par conséquent des caractéristiques différentes de la polyphonie ou de l'harmonie classique, peut s'exprimer par la musique elle-même et doit s'exprimer par la musique, mais aussi nécessite jusqu'à un certain point des explications plus théoriques, verbales, et qui peuvent aider et enrichir l'audition. Mais si l'audition n'a pas d'effet, alors n'importe quelle théorie, aussi mirobolante qu'elle soit, est sans importance.
Il vous fait rire et vous hochez de la tête, Georges Apergis, à la voix de Yanis Xenakis. On est en 1968 et on entend au milieu de cet archive que c'était un mathématicien. Parce qu'il en repasse par la question des ensembles, des mondes inclus. Oui. Et vraiment, on entend presque de la théorie mathématique avec des ensembles de nombres. Mais ce qui m'intéresse dans ce qu'il dit, entre autres choses, c'est l'idée d'un monde qui est inclus dans une musique et auquel nous n'avons accès que si nous avons une sorte de rapport immédiat avec Absolument. Cette musique.
C'est ça qui me faisait sourire. Hein. Parce que c'est, pour moi, c'est fondamental. Et ça vient de lui, j'ai appris ça chez lui, en fait.
C'est-à-dire chez lui, dans sa maison.
Parce que on était très proches quand je suis arrivé à Paris. Et, c'est-à-dire l'immédiateté de sa musique. Quoi. Le son de Xenakis, c'est immédiat, ça vous prend. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, et j'ai toujours cherché ça. C'est-à-dire dans les spectacles, par exemple, que vous avez vu là, je fais en sorte que ça soit immédiat tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. C'est comme un événement qui est en train d'arriver, on n'a pas le temps de réfléchir. Hein. On réfléchira après. Et c'est pour ça qu'il y a des séquences trop longues dans les spectacles pour que les gens puissent savoir un peu où ils en sont et qu'ils puissent rebondir plus tard sur des accélérations qui vont venir. Mais ça vient de là. Et là, Yanis, c'est exactement ça. Quoi. C'est toutes les musiques qui me bouleversent sont comme ça. En fait. C'est immédiat.
Elles sont sans filtre, elles sont sans négociation par rapport au temps, par exemple. Ça arrive maintenant ou ça n'arrive pas.
Voilà. Dans toutes les pièces de Beethoven, même les plus inintéressantes, il y en a quelques-unes, c'est là, quoi. C'est là, ça vous tombe dessus et ça vous lâche pas et ça va trop vite pour vous. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes obligé de suivre quelque chose qui a une énergie propre, une logique propre qui vous dépasse.
Ça. C'est ce que j'allais dire. Ça va au-delà. C'est-à-dire que nous sommes après la musique d'une certaine manière.
Voilà, c'est ça. C'est parce que je suis pas du tout contemplatif, donc je peux pas. J'aimerais bien écrire de la musique comme Morton Feldman, par exemple, que j'adore par ailleurs. Mais moi, je l'adore parce que je ne peux pas faire ça. C'est le contraire de moi.
Parce que c'est un rapport au temps, vous pensez? C'est un rapport à quoi?
C'est un rapport à une certaine faculté de contempler les choses en prenant un temps presque asiatique, quoi. Le temps qui est magnifique. Le temps de voir l'herbe pousser, comme on dit. Mais là, c'est très... J'adore ça, j'admire beaucoup, mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune continuité pour moi, donc je ne peux pas...
Tout doit se jouer dans l'instant.
Oui.
Et l'accumulation des instants.
Oui, oui. Instant par instant, en imaginant qu'il y aura un instant suivant, quoi.
Mais ça, c'est pas sûr.
Non.
C'est jamais sûr.
Non.
Merci beaucoup, Georges Apergis.
Merci, merci à vous.
Ce spectacle s'appelle donc Thinking Things. Merci beaucoup.
Merci.
Tres lobitos, tres lobitos, tres lobitos bailan, tres lobitos bailan, bajo la luna, tres lobitos bailan bajo. La luna.
Au son ce soir, c'était Julien Doumain, Clise, Marie Barré à la réalisation, Corinne Amar, Jeanne Aléos, Romain Debecq de Gèvre m'aide à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent et on se retrouve lundi à 21h.